I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de tout ce qui se passe au niveau matériel, logiciel, des jeux, des démos, des consoles, du bonheur. C'est surtout ça qu'on vous offre et qu'on partage ensemble. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 191. L'épisode 200 s'approche, oh, mon Dieu, et nous sommes en juin 2021. Je suis hyper heureux de vous retrouver. On a des choses intéressantes qu'on va couvrir aujourd'hui. On a les détails du Fidelity FX Super Résolution d'AMD. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que le nom alambiqué ne le laisse entendre. On va aussi revenir un tout petit peu rapidement sur l'E3 et les démos qui sont sorties de l'E3. On en a essayé quelques-unes. Et puis, il y a plein de news et de rumeurs, des jeux auxquels on a joué, des trucs intéressants du côté de Blue Box. Peut-être que vous avez suivi cette histoire un petit peu que j'ai qualifiée abracadabrancojimaesque, cette histoire de Blue Box, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et puis, bah, on va partager tout ça ensemble. Et quand je dis partager, bon, les auditeurs, bien sûr, mais aussi Priscilla alias Trinity qui est là avec nous. Comment ça va?
Ben, ça va très bien, comme à chaque fois que je viens dans l'émission. Oh. Je suis très contente.
Écoute, je vais choisir de croire que c'est parce que tu viens dans l'émission que tu vas bien et pas juste que tu es une personne heureuse et joyeuse naturellement. C'est vraiment l'émission qui voilà. Fait cet effet, on va dire ça.
Carrément.
Et j'ai également le plaisir de recevoir Gianni Molinaro. Je ne sais pas pourquoi, quand il y a des gens qui ont des noms italiens, je me sens obligé de faire un accent de très mauvaise qualité. J'espère que tu m'en excuseras plus.
Oui, t'inquiète pas, tu sais, ça fait très longtemps que je le subis.
Tu sais, quand tu me dis ça fait longtemps que je le subis, je me sens tout à coup très coupable parce que moi, à chaque fois, enfin, toutes les semaines environ, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, déjà ?»
Ah oui, non, mais de toute façon, on a tous un truc qui nous poursuit pendant toute notre existence, ce genre de choses. Bon, moi, tu ne me parles pas de lasagne, de Ferrari, de costard ou trucs comme ça, c'est déjà ça.
Ok, on limite la casse. Merci de te joindre à nous, comme les auditeurs
le savent.
Tu es rédacteur en chef adjoint de Gameblog et du coup, bah, tu as été très occupé ces derniers temps avec l'E3 et on va en parler. On a fait un long épisode sur l'E3 la semaine dernière, que je suis sûr tous les auditeurs ont suivi, mais on va revenir un petit peu à froid comme ça en quelques minutes pour redonner nos impressions et puis comme ça pour avoir vos avis aussi. Mais avant ça, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, spécifiquement Nico Brocchi, Arleider, Carchon, Amodeo, Cécile Vacher et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui fait partie du niveau super secret des producteurs, qui est impossible à trouver sur patreon.com/rdvjeux. Enfin, impossible, sauf pour Claude, qui clairement a un œil de lynx. Donc, merci à lui et à Nico, Arlène, Carchon, Amodeo et Cécile Vachet, les patriotes qu'on remercie aujourd'hui, sans lesquels vous n'auriez pas cet épisode dans vos oreilles pour vous divertir. Et puis, je vais mentionner aussi que le fait que les Patriotes auront un after show, a priori, si on réussit à y arriver, après cet épisode, où on va parler... Alors, j'hésite encore, mais je pense qu'on va essayer de parler des démos préférées de ce Steam Festival, Xbox Festival, qui en livrait des dizaines et des dizaines. Donc, c'est difficile d'avoir tout essayé. Donc, peut-être que les Patriotes auront des conseils à nous donner. Puis sinon, j'ai un autre petit sujet, genre, où est la limite entre fans et fanboys ? Et c'est un sujet complexe et long qu'on pourrait discuter entre nous. Peut-être qu'on le gardera pour une autre fois, mais on verra. Et donc, le premier sujet vrai qui nous fait rentrer dans le cœur de l'émission, c'est évidemment l'annonce ou les détails sur le Fidelity FX Super Résolution. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit tous les deux ? Vous avez peut-être suivi l'affaire.
Absolument. Oui, absolument, oui. J'ai appris ça hier, ce nom qui aurait mérité quand même un acronyme un peu plus évident comme Nvidia l'a fait pour sa technologie DLSS.
Bah, disons qu'on l'appelle FSR en fait, Fidelity Super Resolution FSR.
Ouais, ils auraient dû dire ça tout de suite.
Oui, c'est vrai.
Plutôt que ce soit à nous de le faire, ils auraient dû balancer direct, voilà, ça s'appelle FSR et on n'en parle plus. Parce que oui, sous un nom barbare comme ça, on s'imagine pas forcément quelque chose d'aussi sympathique pour les joueurs du côté de chez AMD.
Bah effectivement, c'est pour ceux qui savent ce qu'est le DLSS, vous vous doutez de ce qu'est le FSR, c'est une technique logicielle et matérielle qui permet d'augmenter la fréquence d'affichage des jeux par une réduction de la résolution de calcul du jeu qui est ensuite re-upscalé avec une technique spécifiquement développée pour ça et qui tire parti du matériel moderne, donc des cartes graphiques modernes. Le DLSS d'NVIDIA est exclusif aux cartes de NVIDIA et il est vraiment considéré comme une réussite assez éclatante de ce concept parce que l'upscaling existe depuis longtemps, hein, l'idée de calculer en jeu en résolution plus faible et puis d'augmenter la résolution en logiciel, sauf que jusqu'au DLSS 2.0 même, on pourrait dire, bah, c'était pas hyper convaincant non plus. Et avec du machine learning, de l'intelligence artificielle et tout plein d'autres termes un petit peu en vogue en ce moment, Nvidia avait réussi à le rendre vraiment, vraiment convaincant il y a un an ou deux quand ils ont sorti la version 2.0. Et comme c'est exclusif aux cartes Nvidia, on attendait la réponse d'AMD, d'autant plus que AMD équipe les consoles également de nouvelle génération, enfin anciennes aussi, mais c'est beaucoup plus important pour cette génération-ci, pour la PlayStation 5 et la Xbox Series S et X. Et du coup, le vrai lancement qui a eu lieu il y a deux jours de ce FSR nous a donné l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Et il y a des éléments vraiment intéressants. Deux choses essentielles à retenir. D'une part, c'est... trois choses. D'une part, c'est beaucoup plus ouvert. Enfin, c'est carrément très ouvert. C'est-à-dire que c'est disponible sur toutes les cartes. C'est une technologie qui est complètement adaptable par n'importe quel développeur et n'importe quel fabricant. En pratique, ça veut dire que ça sera disponible sur les cartes AMD, bien sûr, mais un petit peu plus anciennes que les cartes de dernière génération et sur les cartes NVIDIA également, jusqu'à la série des cartes GTX 1000. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte RTX avec du ray tracing et toutes ces choses-là pour bénéficier de cette technique comme c'est le cas avec le DLSS. L'autre chose, c'est que donc c'est ouvert et c'est disponible sur des cartes plus anciennes. Donc ça, c'est important. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. Le revers de la médaille, c'est que c'est un sursampling, un upscaling qui est beaucoup plus classique que le super incroyable intelligence artificielle de NVIDIA. Et donc, il est moins efficace en ce sens qu'il y a quand même une sensation visuelle de floutage qui se fait quand on active la technologie. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir différents niveaux de fidélité qui vont à chaque fois augmenter la résolution de calcul de base. On va commencer en HD, en 1080, et puis on va monter 1440p, 1800 et ce genre de choses. Et à chaque fois, on va gagner un petit peu en fidélité graphique, mais évidemment perdre en bénéfice de résolution. Mais par contre, la différence avec le DLSS, c'est que quand on est en résolution assez faible, ça se sent vraiment ce petit floutage, même si, il faut l'avouer, on a un rendu qui est quand même bien meilleur que l'upscaling traditionnel. Donc, comment le qualifier au final? Je vais peut-être poser la question à Plume. Qu'est-ce que tu en penses? C'est décevant? Moi, j'en attendais un petit peu plus, j'avoue, mais...
Alors comme je l'ai pas eu, j'ai pas encore pu essayer comme j'ai pas de carte AMD sous la main malheureusement.
Je suis même pas sûr qu'il soit déjà implémenté aujourd'hui dans tous les drivers. Ça arrive très bientôt, mais c'est surtout la presse qui en a parlé jusqu'à maintenant.
Si je me souviens bien, AMD a dit qu'il y avait déjà quelques jeux qui étaient compatibles depuis depuis avant-hier. Et c'est moi, la liste me fait pas trop rêver personnellement des jeux qui sont compatibles. Je veux dire que Godfall, Anno 1800, bon, ça date un peu, Puis Terminator Résistance, alors là je veux même pas en parler. Donc je veux dire, ouais, c'est
Baldur's
pour l'instant.
Gate 3, on va dire, il y en a.
Ouais, mais ça va arriver.
Oui,
on
c'est
n'y
vrai.
Pas encore. Donc c'est ça aussi, c'est peut-être qu'il aurait fallu, pour taper fort dès le départ aussi, il aurait peut-être fallu que ça commence avec des jeux un petit peu importants. Qui sur lesquels en plus ça peut être aussi parfois indispensable. Je sais que le DLSS sur Cyberpunk 2077, il m'a sauvé, il m'a sauvé beaucoup de choses. Je pense que si je l'avais pas eu, le jeu aurait tourné mais de manière calamiteuse avec un peu de ray tracing. Donc je pense que pour l'instant c'est peut-être un peu prématuré de savoir ce que vaut vraiment la chose face au DLSS. Peut-être que AMD va affiner aussi la proposition et mettre d'autres choses dans ce petit programme.
Oui, à terme, on est à la version 1.0, oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, mais bon, le truc, c'est que ouais, s'ils ont déjà un retard qui fait que bah, face au DLSS, t'as pas vraiment. Ok, t'as un gain de framerate, mais pas vraiment un gain ou une stabilité visuelle, je dirais. Ça peut être bon, ça peut être un peu toujours en faveur de Nvidia, quoi. C'est histoire de dire bon bah on a regardé 2 minutes dans la direction d'AMD. Finalement, ils sont toujours un peu derrière. Tant pis.
Voilà. Ce que j'irais, c'est que effectivement au niveau de la qualité graphique, c'est peut-être un petit peu décevant. Par contre, la bonne surprise vient de la compatibilité du système, qui est très très large et qui touche jusqu'aux cartes. Bah, la série 1000, elle a 5 ans, quelque chose comme ça, du côté de Nvidia. Et puis, c'est la même chose avec les RX 400, je crois, du côté de AMD. Donc, on a cette bonne surprise qui est que ça peut être utilisable sur pas mal de cartes graphiques plus anciennes. Du coup, la conclusion, ça a l'air d'être un petit peu, bah, si vous avez du DLSS, il n'y a pas vraiment de raison d'aller voir ailleurs. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera quand même un avantage sensible d'activer le FSR quand il est implémenté. Je crois que c'est un peu la conclusion.
Oui, parce que je pense que de toute manière, quand t'actives ce genre de choses, c'est plus pour jouer en 1440p ou en 4K. Et du coup, les cartes graphiques d'avant, bon, elles pourraient peut-être atteindre ces résolutions-là, mais sur les jeux qu'on vient de citer, tu vois, sur Anno 1800 ou autre, d'accord, mais peut-être que sur des jeux un peu plus gourmands, je vais prendre la dernière version de Metro Exodus, par exemple. Bon, je pense pas que ce soit l'objectif. Quand t'as un bon PC de bureau, donc désigné pour le gaming, de vouloir jouer en 1080p uniquement.
Ouais, disons que pour ces cartes-là,
t'as envie de faire,
ouais. Pour ces cartes-là, quand t'es en 1080 et que tu achètes un moniteur 1440, ça peut te permettre de faire le pont. Et puis, il y a un autre élément que j'ai évoqué très rapidement, mais qui est important, c'est la question des consoles. C'est-à-dire que les consoles, on voit que déjà certaines ont du mal à tenir le 4K, la 4K en 60 FPS avec tout activé, ce qui est normal. Mais peut-être que ça pourrait aider là en réduisant la résolution en 1800 ou 1700, quelque chose comme ça, et puis atteindre le 4K avec une perte de qualité minime. D'ailleurs, la plupart des jeux qui sont en 4K, on met les guillemets, ils sont souvent sur PlayStation déjà calculés en 1800. Sur Xbox, ça a l'air d'être plus souvent le cas en vrai 4K. Donc bon, dans tous les cas, ça pourrait aider, quoi. C'est bon à prendre, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance ou le privilège d'avoir une carte graphique Nvidia très récente qui seront bien contents d'avoir cette possibilité. Bah voilà, donc ça arrive, hein, c'est déjà en cours et puis ça va arriver de plus en plus. Parlons un petit peu maintenant de l'E3, un petit retour sur l'E3. Et du coup, je vais poser la question à Trinity. On a, comme je disais, beaucoup parlé de l'E3 qui vient de se terminer la semaine dernière dans le dernier épisode. Toi, tu as couvert quelques conférences. Rapidement, hein, juste pour avoir d'autres avis sur la chose, qu'est-ce que tu as pensé de cette E3 de ton côté ?
Alors, je pense qu'à l'unanimité, c'était plutôt en dents de scie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus. Moi, personnellement, je l'ai trouvé satisfaisant, mais pas transcendant. si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, il y a eu des annonces, je pense notamment à la conférence Xbox Bethesda que j'ai trouvé assez intéressante et qui pour moi, de celles que j'ai vues en entier, a été la plus palpitante, avec des annonces comme Stalker 2, le nouveau Redfall et pas mal de nouveautés. Donc ça m'a cette conférence là m'a plutôt satisfaite. J'ai aussi couvert la conférence de Ubisoft qui n'a pas annoncé non plus de grosses nouveautés, enfin beaucoup de choses qu'on avait déjà vues, voilà. Ouais. Donc personnellement sur ces deux conférences là ça m'a fait plaisir, mais est-ce que j'ai eu le vibration que j'aimerais avoir dans le 3, pas nécessairement. On va dire ça comme ça. Après, personnellement, je n'ai pas regardé dans l'intégralité de la conférence Square.
T'as bien fait.
C'est ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas regardé. Voilà. Donc, mais il y avait quand même des petites choses intéressantes et à surveiller. Ouais.
Un E3 sympatoche, on va dire. Plume, voilà. C'est ton impression aussi. Alors, comme je disais, toi, tu as été sur le pont pendant une semaine, 10 jours. Évidemment, c'est la grosse période pour les publications gaming. Et tu le fais depuis un moment. Donc, tes impressions sur cette édition un petit peu particulière ?
C'est beaucoup de sentiments très différents qui se mélangent en même temps pour une édition comme ça, forcément, quand c'est... quelque chose qui est exclusivement en ligne, qu'on n'a plus de présentiel, on n'a plus le vrai côté spectaculaire de l'E3 qui peut être très important pour justement ressentir des choses à travers des conférences en live, mais aussi à travers les personnes qui vont être présentes là-bas, que ce soit des journalistes ou d'autres médias, qui vont pouvoir transmettre des choses en direct depuis le Convention Center de Los Angeles. Et puis je pense aussi aux développeurs, tu vois, qui du coup il leur manque un rendez-vous pour pouvoir aller lier des relations avec justement des éditeurs, pouvoir s'exprimer en direct avec encore une fois avec les journalistes. Ça, c'est une chose qui est très importante et c'est ce que Core Media avec Prime Matter a essayé de faire avec sa conférence en ligne. C'était un petit peu ce qu'on a normalement behind closed door, tu vois, quelque chose qui est très intéressant quand on discute en direct avec les développeurs, mais qui se révèle d'une chiantise impossible quand tu la suis de cette façon.
Particulièrement mal ficelé hein, pour Core Media.
Disons qu'ils ont voulu faire quelque chose qui est bien quand on a des journalistes dans la même pièce et qu'on peut avoir un échange, mais quand c'est uniquement du monologue sans vraiment montrer des jeux en plus, ça peut devenir vite insupportable pour le spectateur.
Excuse-moi, je t'interroge si tu te comprends, parce que j'avais été hyper critique de la conférence Core Media en particulier parce que je comprenais pas ce qui leur était passé par la tête, mais c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être, enfin c'est une piste peut-être qu'ils se sont dit on fait ce qu'on fait d'habitude à l'E3 ou dans ce type de salon avec des journalistes, avec pas le soin qu'il faut apporter quand c'est une conférence publique, quoi, visible par tout le monde. Mais oui, c'est peut-être de là que ça vient. T'as raison, j'y avais pas du tout pensé, mais ça pourrait expliquer ce qui pour moi a été vraiment un naufrage pour eux. Mais...
D'accord. Ah oui, les pauvres, ça a pas dû être facile de débriefer ça, et je sais pas si Jeff Keighley a dû apprécier que cet événement soit autant raillé. Et donc il y a cette partie là déjà que sur laquelle je suis un peu mitigé, le fait que c'est aussi ça a été une multiplication d'événements à droite et à gauche de la part d'éditeurs qui n'avaient pas forcément besoin de faire quelque chose. Capcom n'avait pas forcément besoin de faire ça de la façon dont il l'a fait. Square Enix non plus. Take-Two, c'était écrit que c'était un panel, hein, on aurait dû s'en douter. Ouais. Mais on s'est tous à peu près monté le bourrichon en se disant « Ah, ça y est, ils vont nous montrer des trucs intéressants du côté de chez 2K ou au moins du côté de chez Private Division si c'est pas du côté de chez Rockstar ». Bon, ça n'avait rien à voir. Et il y a vraiment cette multiplication et ce besoin de vouloir essayer d'en caser le plus possible au chausse-pied qui a été... pour moi, c'était trop. Il y avait trop de jeux, pour commencer, et trop d'événements qui, encore une fois, méritent peut-être un behind closed door. Je pense à Capcom, d'habitude, à l'E3, Capcom a pas une conférence ou un petit direct. C'est plus on va dans la partie business, on va essayer les jeux qu'ils nous présentent. En général, il n'y en a pas beaucoup, surtout avec Capcom, c'est 3 ou 4 maxi. Et là, ouais, ils ont fait une présentation. Et du coup, ça laisse une impression négative de la part des spectateurs qui, encore une fois, peuvent s'imaginer des tas de choses avant que ça commence. Et ouais. Pour nous, nous c'est assez pénible aussi de se dire c'est des trucs qui auraient pu être partagés en direct avec les journalistes pour pouvoir être bien expliqués, entre autres. Et après, je parle même pas des démos, parce que les démos, là, c'est un raz-de-marée. C'est vraiment trop.
Je me demande, alors trop, je ne sais pas, c'est sûr qu'il y en a eu énormément et beaucoup de jeux annoncés, comme on le disait la semaine dernière, mais je me demande aussi si ça n'a pas justement laissé un petit peu de place aux plus petits développeurs, aux indés, pour le dire clairement, avec leurs démos et avec d'autres choses, le fait que ces conférences, certaines d'entre eux ont senti le SA qui poussait derrière en disant « Allez, faites une conférence, il faut qu'on soit là, le 3, c'est important », et qui du coup a poussé certains développeurs ou éditeurs à faire des confs alors que ce n'est pas nécessaire. Mais oui, du coup, ça a peut-être laissé un petit peu plus de place pour briller à des indés. Bon, à voir. Donc, une édition en demi-teinte, on va dire. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai trouvé ça sympa quand même, mais c'est sûr que ce n'était pas une grande. Par contre, bon sang, 2022, ça va être... Bon, à moins que les jeux soient tous décalés, ce qui est toujours possible, mais ça va être une année de folie.
Je me permets de te couper. C'est juste la fin 2021 et le début 2022. Si on se fie à cette E3, en termes de sortie, c'est démentiel.
Ouais. On se redirige sur une année comme, je sais pas, 2017 ou 2000. Il y en a eu plusieurs à la suite qui étaient vraiment complètement folles. Bon, justement, on parlait d'indépendants. Parlons un petit peu de ces petits développeurs qui ont livré leurs démos pendant le Steam Fest Games Next Fest et Xbox. Pour trouver les démos sur Xbox, c'était pas facile, hein, fallait aller les chercher une par une. Mais donc, il y avait des dizaines, des centaines de démos. J'ai pas pu en essayer la moitié de toutes celles que je voulais. Et il y avait des choses intéressantes, des choses un petit peu moins intéressantes peut-être. Mais une chose que je voulais mentionner la dernière fois, j'ai oublié de dire, c'est à quel point la wishlist semble être importante pour les développeurs indépendants, les petits indés. C'est fou, hein. Toi, tu le ressens aussi, Priscilla ?
Ouais, je suis d'accord, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Chaque fois que je regarde des choses sur les jeux indés, cette histoire de wishlist, alors pourquoi, je sais pas, pour le garder en mémoire, justement pour éviter peut-être, vu que c'est pas des mastodontes, la wishlist permet que le temps que le jeu arrive et se finisse, ça tombe pas dans l'oubli, et c'est vrai que moi j'en ai une qui est assez conséquente sur Steam finalement, de wishlist, avec beaucoup de jeux indés dedans.
En fait, c'est plus que ça. C'est un outil marketing dont ils se servent, qui donne des signaux à Steam de la popularité du jeu et qu'ils peuvent en plus faire valoir auprès d'éditeurs pour montrer l'intérêt que les joueurs manifestent pour leur jeu. Et donc, ça peut leur permettre d'avoir des deals, etc. Et c'est pour ça que dans tous les trailers, le truc qu'ils disent, c'est « wishlist now, wishlist now, wishlist now ». C'était un petit peu le... Vous savez, les années précédentes, c'était « world premiere ». Ben là, c'est « wishlist now, s'il vous plaît, allez-y dans Steam ou dans l'Epic Game Store ».
Ah oui, c'est un outil de visibilité. Hein. C'est comme le Greenlight, ça sert à avoir, pour ces petits développeurs, justement, une raison de dire « regardez, il y a plein de gens qui l'attendent ».
Ouais, exactement. Et ça permet en plus à Steam de savoir quoi mettre en avant, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un signal, une data très importante. Donc, il y avait plein de jeux. Alors là, je vais faire un petit peu le mélange entre Steam et même des trucs PlayStation et des trucs Xbox. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous en parler en 2 minutes, et puis vous allez me dire si je vous l'ai vendu ou pas, ou le contraire, parce qu'il y a des jeux que j'ai pas aimés. On va voir si ma description négative va vous donner envie d'y jouer. Alors d'abord, Tunic, ce petit jeu où on joue un renard à la mode Zelda, qui est décrit comme un Zelda à la Dark Souls. C'est exactement ça, en fait. Tunic, c'est vraiment un truc à la Zelda qui a cette petite pointe de difficulté Dark Souls-esque. Et c'est sympathique, hein, mais je ne sais pas pourquoi le monde entier tombe en pâmoison devant. Pourtant, je comprends la, comment dire, l'attrait. Hein. Zelda, c'est quand même sympathique. Et Dark Souls, je comprends que c'est très populaire. Puis en plus, il y a un petit aspect cryptique qui est assez intéressant. Par exemple, quand on voit des textes d'interface qui vous expliquent des choses, c'est une sorte de langage runique auquel on ne comprend rien. Mais il doit quand même, il faut quand même faire les choix. Genre le premier, c'est OK ou non. Et on voit du texte, on comprend rien du tout, mais il faut quand même faire le choix. Et on sent qu'il y a cette communication qu'a le jeu avec vous qui va être particulière au fur et à mesure du jeu. Les graphismes sont mignons, mais sans plus. Bon, voilà, c'est sympa, il y a plein de secrets, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, on est dans la description, pile dans ce qu'elle est la description, c'est-à-dire Zelda avec une pointe de Dark Souls. Ça vous... Bon, moi, ça m'a pas...
Moi, je triche parce que je regarde la vidéo en même temps sur ton live. Donc, je vais pas regarder que la description. Oui, après, moi, je suis pas déjà une fan de la première heure de Zelda et même du Breath of the Wild. Donc, ça me parle, c'est mignon.
Attention à ce que
mais,
tu dis quand même. Hein.
Je sais, ouais, je sais que je peux régulièrement me prendre des jetées de cailloux à chaque fin d'émission. Hein. C'est comme la fois où j'ai dit que je n'aimais pas Star Wars. Donc...
voilà, autant Zelda je pouvais accepter, mais là Star Wars c'est pas possible.
Vous savez que moi je suis pas un méga fan de Star Wars non plus, donc il va y avoir combat général. Hein, ça va être un battle royale.
Je plaisante.
Non, mais le jeu est mignon. Oui, ça a l'air sympa, mais voilà, ouais. c'est pas mon style, bien qu'il ait l'air très bien.
Ouais, d'accord.
Bah moi j'ai à la rédac, j'ai quelqu'un qui l'avait essayé sur la première démo là, qui a resté pendant au moins 4 ans. Ça a toujours été cette démo là qui a été montrée aux journalistes et qui a pu être essayé aussi. Et il avait l'air convaincu, lui, par le projet. C'est vrai que c'est mignon. Ça ressemble beaucoup au niveau du rendu à ce qu'a fait le Link's Awakening de la Switch. Mais ça l'a fait un petit peu avant. Et bah voilà, après, il n'y a rien à dire de plus. Hein, faut l'essayer. Et là, pour le coup, j'ai pas eu le temps.
Eh bien, écoute, on va parler du coup de Stranger of Paradise. Chaos dans la conférence Square Enix. La démo qui n'a pas été disponible pendant, on va dire, une journée, ce qui est un temps interminable en temps de l'Internet et de l'E3. Alors, c'est quand même très, très, très japonais. Le tutoriel, c'est... des séries de textes et de textes, vas-y, appuie là, fais ça, appuie là. Donc, c'est long à se mettre en place, mais j'avoue que même moi qui ne suis pas un grand fan, bah, comme je le disais, des Dark Souls, là, c'est un gameplay hyper dynamique qui a l'air intéressant. Vraiment, le gameplay me semble beaucoup plus dynamique que dans
Très Devil May Cry, hein.
Ouais, complètement. Ouais, c'est très, peut-être très que la description Devil May Cry... Alors, il n'y a pas tout le système de combo aérienne, tout ça de Devil May Cry, on est plus dans du combat mêlé. Mais le système, comment dire, entre la démo, enfin le trailer qui faisait « I'm here to kill chaos, where is chaos, I want to kill chaos » et la démo qui marchait pas et le début de la démo, je partais avec beaucoup d'a priori négatifs et pourtant le gameplay, quand on finit par y arriver, semble avoir un petit peu retourné. Donc à surveiller, comme les auditeurs le savent, c'est Final Fantasy Origins, c'est une sorte de, comme je disais, Dark Souls... dans l'univers de Final Fantasy 1, si je ne m'abuse. Donc voilà. Ouais, ça se tente, je crois que c'est ça.
Ouais, moi, ça me tente. J'aime bien ce genre de dynamisme. Pourtant, je ne suis pas... Attention, elle va se faire encore tabasser la gueule. Non, je ne suis pas... je peux m'ouvrir aux univers japonisants. Je le fais notamment du FF14, par exemple. Mais je ne suis pas quelqu'un d'hyper fanat des univers japonisants. Mais justement, ayant joué à Devil May Cry, etc., là, ce genre de fight, moi, ça m'intéresse. Je trouve ça dynamique et ça se fait bien. Et puis, il y a un beau travail quand même, je pense. Il y aura un beau travail sur le lore, donc envie de tester.
Ouais.
Moi, de mon côté, comme je suis. Alors, j'ai un autre problème, moi, c'est que je suis pas très fan de jeux vidéo à la base. Donc, du coup, je sais pas si je suis vraiment la cible. Non, je plaisante, évidemment.
J'étais pas sûr de comprendre.
Moi non plus, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il dit?
Je sais pas, vous dites que vous êtes pas fan tous les deux. J'aime pas ça. Donc, moi, je me suis dit, attends, autant aller directement dans le du sujet, dans le jeu vidéo sujet. Complet. Non, mais c'est vrai que c'était très intriguant la façon dont ça a été dévoilé. Les retours, sont plutôt bons. Je pense que c'est parce que ça ressemble peut-être plus à du Nioh, qui est encore un autre. Voilà, qui est fait par Team Ninja aussi, et qui est, qui a son style à lui, son style qui est très dynamique, comme tu disais. Et je pense que c'est ça qui fait que, il a l'air de bien fonctionner, auprès de personnes qui sont pas forcément, très, très amoureuses de tout ce que fait From Software, qui est peut-être un peu plus raide à aborder, en dehors de Sekiro, évidemment. Donc c'est peut-être pour ça, mais là pour le coup, lui, je vais attendre qu'il mûrisse un petit peu avant de lui donner une chance.
Je peux comprendre, ouais. Ouais, donc ouais, un petit pourquoi pas, un peu inattendu de ma part. J'ai aussi testé la démo de Sable, le jeu au graphisme style Mobius, qui est intéressant à voir, en fait. C'est assez étrange parce qu'on pense avoir compris le style graphique, et oui, bon, clairement, on l'a compris, mais c'est vrai qu'il y a une finesse... surtout quand on est sur un gros télé avec une résolution très fine, qu'on ressent vraiment de manière... qu'on ressent encore plus quand on le voit pas juste dans un trailer, pas juste sur YouTube. Donc le style graphique a son effet quand on l'a devant les yeux. Le jeu en lui-même est très lent, et puis il y a des effets de dialogue. C'est difficile à décrire, mais en fait, quand on choisit les options de dialogue, c'est comme si la personne, le personnage qu'on joue, donc Sable, racontait ce qui s'est passé, même dans les dialogues. Genre, elle dit « je lui dis que ceci, cela » et ensuite, on a la réponse de la personne. Donc, ça donne un effet, ça met une sorte de... Ça nous place en tant qu'observateur un petit peu, même si... on joue le personnage et qu'on le contrôle directement. Puis après, il y a tous ces voyages. On a un peu l'impression d'être sur... tu m'as mis Star Wars dans la tête, donc je vais dire c'est Tatooine, la planète de Luke à la base. Je ne dis pas une connerie. Et du coup, c'est un sentiment. Et puis, il y a le speeder, la sorte de moto qui vole à un mètre du sol, qui se balade dans l'environnement. Je crois que ce n'est pas mon truc, mais c'est un jeu qui est particulier et qui est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs. Maintenant, j'ai peur qu'il fasse un peu plouf quand même après la surprise du début, quoi, les spécificités du début.
Moi, celui-là, vas-y, je t'en prie.
Moi, c'est très court. De toute façon, je le trouve effectivement très intéressant graphiquement. J'adore. Ça me donne envie d'y jouer. Mais au vu de ce que tu dis, le gameplay, etc., me tente beaucoup moins. Mais il a l'air d'avoir sa spécificité et son intérêt par rapport à l'histoire et surtout au visuel.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est là pour le coup, je dois avouer que je l'ai installé sur mon PC justement. J'ai essayé de le lancer quand j'avais 3 minutes la semaine dernière. Les 3 minutes étaient longues. C'était très spécial. Non mais vraiment, c'était très 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 spécial. J'avoue que le style graphique est sublime. Cette espèce de saccade là dans les animations du personnage qui font un petit peu moi ça me fait énormément penser aussi au dessin animé des années 80 qu'on avait, genre les mondes engloutis et autres qui n'étaient pas parfaits.
Pour ceux qui savent pas, on a en fait l'animation, enfin la fréquence d'affichage de tout l'environnement est 30-60 fps, c'est bien, mais le personnage est limité à 5 ou 6 images par seconde, donc il y a une dissonance étrange qui est difficile à réconcilier.
Ouais, c'est très étrange. Ça m'a plu, mais le peu que j'ai fait, les déplacements étaient extrêmement lents. Quand tu sors la première fois de l'espèce de temple dans lequel tu te trouves, les caméras qui suivent très mal, ça m'a vraiment perturbé. Le fait qu'il n'y ait aucune indication quand tu sors, ça m'a perturbé. Et les dialogues extrêmement lents dans leur affichage et tout. Il y a un jeu avec lequel j'ai du mal à cause de ces dialogues à tire larigot, c'est Okami, et j'avais l'impression d'avoir une espèce de descendant d'Okami, mais en même temps, bon, le jeu n'est pas fini. Donc je vais pas non plus encore une fois tirer sur un jeu qui est peut-être même en alpha, tu vois.
Oui, je pense qu'on a clairement une note d'intention ou même une démo d'intention qui est claire sur ce qu'ils veulent faire. Donc je crois qu'on peut effectivement juger un petit peu la chose. Mais
Ouais, okay, après on verra. Ça, c'est... J'essaierai de voir s'il n'est pas aussi, s'il est pas aussi comment dire, il a l'air un peu ennuyeux. Voilà. Mmh,
C'est contemplatif, on va dire.
Oui, voilà. Pour être gentil, on va dire ça. Oui.
Bah écoute, il y a un truc moins contemplatif dont je vais te parler. Ça s'appelle Death Trash. Et ça me fait penser un petit peu au, je sais pas, au truc quand tu parles pas très bien anglais et que tu veux faire un truc qui tape, tu sais, tu mets deux mots qui te semblent très très méchants. Et, et tu fais, ouais, quand tu sais, t'as 14 ans, t'as l'impression d'être très très fort. Tu vois, ouais, moi mon perso de jeu de rôle, il s'appelle Death Trash. Bon, bref.
Ah, moi, j'aurais pensé à un genre musical, tu vois. Ah, on va au concert de Death Trash ce soir. Ouais.
C'est le genre de musique que Trinity pourrait écouter, tu vois, par exemple.
Exactement, Death Trash. Exactement. Ouais,
alors, c'est un jeu qui est en pixel art, en vue isométrique, avec un thème très très fort. C'est un petit peu décrit comme un Fallout, des premiers styles de Fallout, où on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut tuer tous les NPC, et puis après on se démerde, le jeu raccroche les wagons. Mais surtout, il a une esthétique qui est post-apocalyptique crade, et crade dans le post-apocalyptique classique, genre c'est la Terre est dévastée, etc. Mais surtout, les monstres sont, ou les ennemis, et l'environnement est plein de chair qui a genre pris vie et qui a grandi, et l'un des premiers ennemis qu'on rencontre, enfin l'un des premiers NPC qu'on rencontre, c'est le Kraken de chair, et il est évidemment immonde. Il y a un moment dans le tutoriel, il y a une machine qui vous dit, ah ben la machine marche pas, donc il faut un lubrificateur organique. Tu dis, mais qu'est-ce que, de quoi? Et tu t'éloignes un peu et tu dis, est-ce que tu veux vomir? Donc, ok, tu vomis. Et ensuite, il t'invite à ramasser ton vomi et à le mettre dans la machine. Et c'est ça, le lubrificateur organique. Vous voyez, c'est ce genre de... alors là, c'est un moment particulièrement dégueu, mais c'est ce genre d'ambiance. J'ai été étrangement... Moi, je me serais dit, mais je pars en courant sur un truc comme ça. J'ai été étrangement intéressé par le truc. Le jeu, alors ça va encore gueuler dans la chatroom, mais que voulez-vous, c'est bien le cas. Ça a des inspirations Dark Souls-esque, et je sais qu'en ce moment, en fait, Dark Souls-esque, ça veut dire simplement qu'il y a des animations qui ne sont pas interruptibles facilement et qui sont un minimum exigeantes. On va dire, c'est cet aspect du jeu qu'on retrouve dans le design de nombreux autres jeux, et c'est le cas ici aussi. Et à part ça, bah, c'est un truc qui est intriguant par son esthétique et son gameplay qui a l'air assez bien ficelé. Donc bon, il arrive bientôt en Early Access, et aujourd'hui, on est à cette étape où c'est intriguant, on va dire. Voilà, là encore. Alors, Death Trash.
Testez-moi. Moi, j'aime bien. Bah, tu sais, enfin, moi, maintenant, tu commences à me connaître. si c'est post-apocalyptique, qu'il y a des monstres déformés, et que tu me dis au début que ça ressemble un peu au premier Fallout, moi, c'est vendu, hein, direct. Hein.
Très bien. OK. On a un premier client. Jenny, j'ai cru comprendre que tu disais,
oui,
toi aussi.
Bon.
Hein. Ouais, c'est bon, ça y est.
Oui, pas de problème. Bon, tu me dis Fallout. Je vois que c'est un jeu en 3D isométrique, en pixel art. Aussi au passage, bon, si c'est dans le même délire, oui, ça va aller. Puis avec je vois tous ces trucs un peu dégueux partout, oui, ça peut être macabre. Ouais.
Bah écoutez, je pense que mon jeu, ça sera peut-être le jeu que vous retiendrez de toutes ces démos. Je crois que du coup, le jeu que moi je retiendrai de toutes ces démos dont on va parler tout à l'heure, ça va pas du tout être votre style, hein, parce que on est vraiment diamétralement opposés. Mais du coup, faisons avant ça un petit détour par deux démos de nostalgie rétro qui généralement ne me parlent pas vraiment, mais que j'ai testé juste pour voir. Et figurez-vous que, eh ben non, ça me parle pas vraiment non plus, toujours pas. J'ai testé Alex Kidd in Miracle World DX.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, tu es un fan de Alex Kidd. Alors...
Ah, mais je l'ai testé, surtout.
Ah oui, d'accord. Donc, je n'arrive pas à comprendre si c'est aïe, 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 ça fait mal, ou aïe, aïe, aïe...
Ah ouais, ça fait très mal, ouais.
Ah d'accord,
ah,
ok.
Ah ouais, ça fait très mal.
C'est un jeu qui a... Qui, alors, c'était un jeu Mega Drive, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas.
Master System.
Pardon, oui, oula, qu'est-ce que je raconte, ouais. Master System. Ouais. Et ben, je vais te laisser en parler si tu l'as testé, du coup.
Jeu Master System de 86, qui est, dans les souvenirs des personnes qui l'ont essayé, un jeu très, 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 vraiment super fandard, un jeu de plateforme super coloré, joyeux. Et la réalité, En fait, elle revient avec ce remake. C'est que en fait c'était pas un bon jeu tout simplement. Là, si tu... Non mais c'est vrai, si tu sors Super Mario 1 aujourd'hui, juste avec une nouvelle esthétique, ça reste un jeu extraordinaire. Tu peux faire ce que tu veux, que ce soit la physique du perso, le level design, tout est encore mais parfaitement adapté à un jeu actuel. Là, le problème d'Alex Kidd, c'est qu'il n'y a rien qui va par rapport à notre époque. Alors oui, le visuellement, vraiment, la refonte, elle est fantastique.
La c'est Junk la grande Team réussite, est... Hein, il est ah, très, ouais. très bien repensé.
La Junkin' Team, qui est un petit groupe de fans espagnols, ils ont fait un boulot mais génial. Vraiment, c'est super agréable à regarder, à écouter aussi. Hein, les réorchestrations, elles sont super, super, super cool. Mais le problème, c'est qu'ils ont gardé la base de gameplay sans y toucher. Ils ont fait le même truc que Wonder Boy, le Wonder Boy 4 qui est paru il n'y a pas très longtemps. C'est qu'ils n'ont pas voulu, toucher au level design ou à la maniabilité. Et le problème, c'est que Alex Kidd, in Wonder World, non, in Miracle World, pardon, c'est un jeu qui est vraiment une purge à jouer. Ça soit. Non, mais ce soit.
J'aime l'honnêteté de la chose, effectivement.
C'est-à-dire que pour l'époque, oui, nous, on était persévérants, on achetait un jeu. De toute façon, ouais. on avait un jeu pour les 3 mois qui viennent ou les 4 mois, si c'est pas plus. Ouais. On n'avait pas le choix. Donc, la physique du personnage est affreuse. Il glisse en permanence. Il faut vraiment que tu avances par petits à-coups. Et encore, c'est même pas suffisant. Les hitbox sont mais exécrables. C'est une honte absolue. Je veux dire, il y a un passage en particulier où tu affrontes un boss qui te balance des éclairs. Les éclairs, tu peux être allé à 1 mètre visuellement par rapport à l'écran de l'éclair, t'es mort. Et sachant que t'avais que 2 vies à l'époque, c'est quand même. Mais c'est impossible, quoi. Il y a encore. Il y a aussi les pics, enfin il y a plein de trucs. La physique du personnage dans l'eau qui remonte automatiquement au lieu de rester maintenu ou il faut que tu le fasses grimper en appuyant plusieurs fois sur le bouton de saut. C'est un enchaînement de trucs qui ne vont absolument pas aujourd'hui et qui font que bah ok, si vous avez envie d'y jouer pour votre histoire c'est bien, mais enfin pour l'histoire, pour votre culture c'est bien, mais par contre pensez pas à y prendre vraiment du plaisir, c'est pas possible.
Très bien, bah écoute, je pense que les choses sont claires, c'était un petit peu mon impression aussi, hein, je vous avoue, donc on se rejoint là-dessus. Et alors, du coup, je serai un petit peu moins dur sur R-Type Final 2, qui est lui aussi vraiment empreint de son historique. Là, c'est pas vraiment du rétro parce que c'est un nouveau jeu, mais il respecte tellement les codes de R-Type de l'époque. Et puis, c'est aussi un jeu japonais, je vous avoue que les intros avec de la 3D un petit peu pourrie qui n'ont rien à voir avec le jeu lui-même, et puis cette sorte d'intelligence artificielle qui vous parle et qui est un script clairement écrit en japonais et traduit beaucoup trop directement. Bref, le jeu, bah, c'est du R-Type, c'est aussi punitif que les R-Type à l'époque. Ça peut être sympathique quand on a le vaisseau maximisé qui est très cool parce que ça tire de partout, mais on ne le garde pas longtemps à moins d'être bon. Donc, il faut vouloir s'investir dans le jeu vraiment pour y prendre du plaisir, enfin, de ce que j'ai vu dans la démo et de ce que je connais de R-Type. Donc bon, ça parle aux fans de R-Type, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux gens qui ne sont pas déjà fans du truc, quoi. On va dire ça comme ça. Et puis maintenant on passe à la dernière partie des démos dont je voulais parler, et ça, c'est la partie les jeux détente, les jeux cool, les jeux chill, avec Lake, qui est un jeu en 3D, donc en 3D un petit peu très stylisé, où on est une exécutive dans une société où on fait du crunch tout le temps dans les années, je crois que c'est 80 ou 90. Et pour nos vacances, pendant 2 semaines, on décide de rentrer dans notre ville natale qui est au bord d'un lac, dans une forêt de pins qui est super, super beau. Et on va aller livrer des colis pour la poste. On fait pendant 2 semaines ça, et on doit se balader avec son camion de la poste et aller à différents endroits de la ville, un petit peu en dehors, un petit peu. Et donc, c'est vraiment contemplatif, c'est très très beau. Et je peux comprendre que ça puisse plaire à des gens, Moi, le truc, c'est que les environnements que vous voyez dans Lake, c'est un petit peu ce que j'ai en dehors de la maison, ici, en Finlande, au milieu de la campagne. Donc, ça me parle un petit peu moins. Mais si vous cherchez un truc de ce type-là... Alors, ceci dit, il faut que j'avoue, c'est la démo, hein, le jeu, je crois, il est pas encore sorti. Techniquement, c'est un peu dommage parce qu'il y avait énormément de clipping et des éléments, des arbres et des trucs comme ça qui s'affichaient à genre 100 mètres de vue. Donc, on les voyait s'afficher. Donc, c'est dommage dans un jeu où les visuels font beaucoup. Mais bon, voilà, c'est un jeu où on livre du courrier dans une belle ville dans la forêt, dans une belle petite ville dans la forêt. Ça plaira peut-être à certains.
Moi, quand je pleure, j'aime bien les trucs un peu contemplatifs comme ça. Je suppose qu'il va y avoir des dialogues un peu intéressants quand on va livrer des colis, etc. Donc, ça peut me plaire. C'est pas le genre de jeu où j'y passerai non plus 10 heures, mais ça peut être sympa.
Ouais. Je pense que exactement.
Un Death Stranding sans Death, ça peut être bien. Ouais.
C'est juste un Stranding, en fait. C'est ça.
Ouais,
ouais, non, mais il y a exactement ça dans ce genre de jeu. Il y a souvent un aspect narration par les rencontres et par les dialogues. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Donc, oui, il y a clairement de ça également. Le deuxième jeu, Chill, c'est un jeu dont on avait parlé au moment de l'E3. C'est Terra Nil, que vous avez peut-être pas vu passer, qui est édité par Devolver, et c'est un reverse city builder. En fait, on commence dans un territoire complètement dévasté, et il faut construire avec... c'est un jeu un city builder, mais il faut en fait ramener la nature plutôt que de construire une ville. Et ça fonctionne comme on peut l'imaginer pour ce genre de jeu. On met d'abord une source d'énergie, et puis on irrigue la zone, et puis on ramène différents types de biomes. C'est vraiment, là aussi, assez contemplatif, en tout cas très très chill. Il y a des moments assez magiques où on finit par, dans la démo, amener plusieurs biomes différents dans la zone. Et puis là où c'est assez intéressant par rapport au city builder classique et à aux jeux de ce type, c'est qu'après, il faut, en plus du fait d'avoir ramené la nature, il faut enlever toutes les structures qu'on a construites et donc recycler tout ça, en fait. Et donc, il y a une troisième étape du jeu qui consiste à retirer tout ce qu'on avait construit. Donc, il y a un élément stratégique en plus, là, qui va faire qu'on va peut-être construire de manière différente parce qu'on sait qu'on va devoir, au bout du compte, avoir des trucs suffisamment prêts pour les retirer grâce à... etc., etc. J'ai pu arriver au bout de la démo alors que, vraiment, moi, c'est pas du tout mon style de jeu. Donc, d'une part, ça prouve que ça m'a maintenu en intérêt, que ça a maintenu mon intérêt, et surtout que c'est suffisamment facile, en tout cas au niveau de la démo, pour que moi je puisse y arriver. C'était vraiment vraiment pas difficile, hein. C'était beaucoup plus simplement le fait de le faire que de trouver exactement où placer quel bâtiment pour que ça fonctionne. Et au final, c'était une bonne expérience. Je suis pas sûr de l'acheter parce que j'ai pas beaucoup de temps et c'est pas vraiment ma cam, mais même moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa, surtout dans la partie où on finit par installer les différents biomes, où on installe des ruches pour que les abeilles reviennent, et puis on voit les animaux qui commencent à sortir. Il y a quelque chose de vraiment... certains diront presque ironique, parce que pendant que notre planète est en train d'être dévastée, j'exagère, mais bon, on est en train d'en construire une jolie virtuelle, mais ça sensibilise peut-être un peu. C'était une vraie belle surprise pour moi, ce petit Terra Nil.
Ça a l'air sympa. Moi, c'est mon petit péché mignon, les jeux de stratégie hors live. C'est les rares jeux auxquels je joue hors stream, parce que en stream, je trouve pas ça hyper passionnant, en tout cas pour ma communauté. Celui-ci a l'air cool. En étant un petit peu écolo dans l'âme, forcément ça me parle de pouvoir remettre un petit peu de verdure. Maintenant, c'est ce que tu disais et tu l'as confirmé, j'ai peur que le jeu soit trop facile. Enfin, en tout cas, au niveau des mécaniques que je vois, jouant quand même de temps en temps à des jeux de stratégie, je sais pas comment ils vont augmenter la difficulté de tout ça, mais ça me semble quand même un peu facile.
Alors voilà. Clairement, je sais pas, c'est peut-être pour la démo, pour pas rebuter les gens qui sont connaisseurs, hein, mais il faudra clairement vérifier la chose au moment de la sortie, parce que je te confirme que moi, généralement, dans ce genre de jeu, quand j'en teste un, au bout de 10 minutes, je comprends plus rien et je suis un petit peu saoulé. Là, j'ai pas du tout eu la moindre difficulté, donc à peine un moment et ça a pas duré longtemps.
Non, mais ils veulent peut-être aussi permettre que ce soit plus accessible.
Plus accessible, ouais.
À tout le monde. C'est vrai que le jeu de stratégie, ça reste quand même assez niche et c'est souvent très complexe. Donc là, au moins, ça permet d'ouvrir les horizons pour tout le monde.
Mmh. On est d'accord. Je vais continuer avec le dernier jeu dont je voulais parler. C'est Unpacking, qui m'avait tapé dans l'œil au moment des présentations E3 déjà, dont la démo proposait 2 niveaux. Eh bien, vous savez quoi ? Il est tout aussi charmant que je le pensais en voyant le trailer. C'est un jeu où on va sortir de cartons de déménagement les affaires du personnage principal qu'on va suivre lors de multiples déménagements à travers les années. Et ça a l'air horriblement chiant, dit comme ça. Et je suis sûr que beaucoup de gens trouveront que, effectivement,
j'adore.
C'est horriblement chiant. Moi, je pensais que ça allait te parler avec ton House Flipper et tes...
Ouais, j'adore, ça a l'air trop bien.
Et, alors, c'est pas un truc qui est hyper gestion, hein. C'est pas... C'est vraiment, on sort les affaires de la, des boîtes, des cartons. Et du coup, bon, d'une part, ça parle à mon esprit un petit peu OCD où il faut que chaque chose soit à sa place, comment on va déplacer tel... C'est très, très léger. Hein. Il y a un tout petit aspect puzzle, mais vraiment léger. Mais surtout, il y a, là encore, une narration hyper originale avec les choses qu'on sort de ces cartons et qu'on place dans différents appartements où a vécu l'héroïne, parce que, enfin, la protagoniste, parce que c'est une fille, une femme... Qui parle de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient, des choses qui... On voit au début qu'elle s'intéresse... Au début, par exemple, je vais donner juste un exemple, elle a des affaires de dessin, mais tu sens qu'elle a 7 ans, quoi. Donc c'est genre, je dessine, machin. Et l'étape suivante, elle est peut-être au collège ou elle est un petit peu plus âgée, et tu vois qu'elle commence à s'intéresser au dessin, mais de manière plus sérieuse. Elle a plus de matériel, elle a... Et donc tu sens où ça va aller. Et ce qu'elle a gardé, elle avait au tout début plein de peluches, et puis là, elle en garde juste 2. Donc, il y a un aspect un petit peu nostalgie. Et puis, tu revois, au début, elle a un lecteur de cassette, et puis elle se retrouve avec un lecteur de CD ou un iPod mini. Tu vois, tu dis, ah ouais, moi aussi, j'avais l'iPod mini. C'est un peu... Il y a ce voyage nostalgique dans l'histoire de la personne et qui raconte son évolution, qui, je pense, pourrait vraiment fonctionner. Pour les gens, bien sûr, qui apprécient ce type de trip, c'est clairement pas pour tout le monde. Mais moi, je crois que c'est de toutes les démos que j'ai vues, celle dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir. En plus, les graphismes sont plaisants. C'est vraiment agréable comme petit jeu. Ça s'appelle Unpacking.
Donc, je crois que j'ai trop déménagé pour avoir envie de le faire.
C'est vrai ?
Je viens de le mettre dans la wishlist. Ouais.
Je crois que peut-être que si on a beaucoup déménagé, enfin moi j'ai beaucoup beaucoup déménagé et ça me parle justement. C'est genre ah j'ai connu ça, mais,
ouais, bon, mais c'est trop.
Deux réactions complètement opposées du coup. Moi je suis plutôt Team Trinity quoi. C'est et bravo de l'avoir mis dans la wishlist, ce qui soutient voilà. Ce petit développeur. Très très bien. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour de nos petites démos. On va donc passer aux news suivantes. Mais avant ça, je voudrais remercier tous les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous passez un bon moment avec nous, vous voudrez peut-être aller voir ce qui se passe du côté du Patreon, parce que non seulement ça vous permet de soutenir l'émission, mais en plus vous avez des petits bonus fort sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir des timecodes pour tous les épisodes. Vous avez également les pubs qui sont complètement supprimées du flux privé. Vous avez aussi les after-shows où on parle de choses extrêmement sympathiques à chaque épisode avec la communauté. C'est un petit supplément de l'épisode qui est vraiment cool, etc., etc. Donc, si vous appréciez le rendez-vous jeu et si vous l'écoutez, allez, on va mettre la barre. Évidemment, si c'est la première fois que vous l'écoutez, je ne vais pas vous demander de payer pour me faire manger. Mais si ça fait 6 mois, allez, si ça fait 6 mois que vous l'écoutez régulièrement et que vous aimez bien l'émission... Vous, là, posez-vous la question. Dites-vous, ah, est-ce que ça vaudrait le coup, peut-être, d'aller sur patreon.com/rdvjeu ? Si ça fait 6 mois que vous écoutez, allez, vous regardez simplement sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission. Je vous fais des grosses, grosses bises spéciales.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon alors, sur les jeux, les vrais jeux auxquels on a joué en ce moment, moi j'en ai quelques-uns, je vais aller très très vite. J'ai testé un petit peu Ratchet & Clank Rift Apart, et je veux pas ruiner le plaisir des gens, mais moi ça me... je comprends pas en fait les Ratchet & Clank depuis le début. C'est vraiment des jeux de plateforme hyper classiques. Alors celui-là, il est clairement super beau. Il montre les capacités de la Next Gen et de la PlayStation 5 de manière très impressionnante. Je trouve un petit peu moins sur l'aspect SSD super rapide. C'est très très limité les utilisations du SSD, alors que je l'attendais comme la démonstration technique. Bon, par contre, au niveau de la complexité graphique, clairement, c'est une baffe. Mais le jeu lui-même, c'est sympa. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Moi, je trouve ça, c'est sympatoche. Mais voilà, j'ai pas j'ai pas eu le choc, ou en tout cas, je trouve pas ce petit trait de génie dont semblent parler certains quand ils l'évoquent avec des étoiles dans les yeux, genre « Ah, c'est super sympa, les flingues sont tellement marrants les... ». Bon, moi, je trouve ça très, très classique et pas particulièrement, j'oserais même dire inventif, mais on va me traiter de rabat-joie.
Ça me rassure ce que tu dis, parce que j'avais l'impression d'être un peu un ovni. Alors le jeu est très cool, hein. Je ne l'ai pas fini, ce qui est assez étonnant, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans une démarche de finir mes jeux, depuis 2 mois. et tu vois, je m'étais refait une session un peu nostalgie, où moi, je me suis refait le remake de Spyro, je me suis refait le remake de Medieval, etc. Et moi, j'ai mis ça sur le compte que j'ai jamais joué à l'époque à Ratchet & Clank. Mmh. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai pas... Tu vois, c'est cette petite nostalgie qui fait que j'ai envie de redécouvrir ces personnages-là. Parce que le jeu, effectivement, est super bien fait. Il est super beau, c'est fluide. On peut le qualifier de plein de choses positives. Mais ben, j'ai pas eu cette flamme qui a fait que ben, j'ai eu envie de faire une deuxième session. Et je l'ai dit à mes viewers, quoi, je leur ai dit, je suis désolée, j'ai pas envie de faire une deuxième session dessus, quoi.
Ouais, je suis un petit peu sur cette... Mais moi non plus, j'ai pas joué à ceux d'avant, donc il y a peut-être un peu de ça, ouais. Mais c'est marrant parce que, comme tu dis, j'ai rien à reprocher au jeu, en fait.
Oui,
il est super par tous ses abcès. par tous ses aspects. Vraiment, que des qualités, mais bon, moi, ça, la flamme ne s'allume pas. J'ai aussi joué... Alors, il faut que je vous raconte une toute petite histoire. Ça ne va pas prendre longtemps, mais un matin, réveillé par les enfants à 5 heures du matin... Je traîne sur YouTube et je vois passer une vidéo de review, enfin de preview de notre ami Exerve sur Tales of Arise, qui est le dernier jeu de la série des Tales of qui doit sortir dans 2 mois, je crois. Il a eu une petite preview. Alors je vois ça, je me dis « Ah, c'est bon quand même, Tales of, j'ai jamais fait, faudrait que je regarde ». Donc je m'intéresse un peu à la série, je trouve une vidéo qui parle de la série dans son ensemble et qui dit « Alors, celui pour commencer, c'est Tales of Vesperia ». Ok, Tales of Vesperia, très bien. En plus, il y a une Definitive Edition qui est sortie sur toutes les consoles. C'est le meilleur moyen de commencer. Ok, très bien, je vais sur le PlayStation Store et je vois qu'il est en solde. Bah, 5 heures du matin, un petit peu embrouillé. Ok, j'achète. Et je me dis, ah, oh, vraiment, j'ai pas le temps de jouer au jeu, mais bon, il est à 10€, allez, comme ça, je le testerai un peu, machin. Et je vais sur Twitter, je raconte cette mésaventure et je dis, ah, ça va faire rire les gens, j'ai encore acheté un jeu alors que j'ai le temps de jouer à rien. Et là, plusieurs réponses qui viennent gâcher mon humeur matinale, qui m'informent que non seulement il est disponible sur le Game Pass, le Game Pass c'est quand même le truc dont je vous parle et avec lequel on vous saoule chaque minute de chaque journée, de chaque épisode, non-stop, j'ai même pas pensé au Game Pass, mais en plus, s'il faut le payer, autant le payer sur Switch, parce qu'il est aussi sur Switch, aussi en promo. Et sur Switch, bon, il a peut-être un tout petit poil moins beau, mais c'est un jeu qui a 10 ans. Donc, on peut tout à fait y jouer sur Switch. Et en plus, on peut le prendre en portable. Et là, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Merde, je viens de le payer sur PlayStation. Il est disponible sur Game Pass. Il est aussi sur Switch. Si jamais j'y joue un peu et qu'il me plaît, je vais y jouer sur PlayStation ou sur Xbox. Et si je veux continuer, peut-être qu'à un moment, je serai quelque part en week-end. Les fantasmes, vous savez, alors que j'ai deux enfants, je vais aller nulle part. Mais peut-être qu'il vaut mieux le prendre sur Switch. Et du coup, devinez ce que j'ai fait.
Tu l'as pris sur Switch.
Exactement, je l'ai pris sur
Switch. Oh là là, mais c'est... Oh, mais c'est pas possible.
Mais quand même. Hey, j'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Je le prends sur Switch, non, je joue sur PlayStation ou Xbox. Ou la troisième réponse était, mais t'es con ou quoi? Et les gens ont dit quand même majoritairement, mais t'es con ou quoi? Donc, mais le truc, c'est que j'ai pu me le faire rembourser sur PlayStation. Donc, au final, c'était pas si... Mais voilà, c'était rigolo comme histoire. Et donc, j'y ai joué. Et j'ai joué un petit peu à Yakuza 7. J'ai continué à jouer à Yakuza 7. c'est quand même... c'est verbeux, hein, Tales of Vesperia. On parle de manière dithyrambique de ce jeu et de la série des Tales. Il y a des choses très, très belles. Il faut se forcer, hein. Pour y jouer, parce qu'au début, c'est compliqué de rentrer dedans. Il y a plein de qualités au jeu, je suis sûr, mais je vous avoue que j'ai joué peut-être 2 heures. Bah, c'est comme souvent les jeux japonais. Celui-là, il n'est pas autant visual novel que Yakuza 7, auquel j'ai continué à jouer et que j'apprécie beaucoup, mais c'est quand même... Et puis le système de combat que tout le monde décrit de manière assez dithyrambique, moi, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Donc, je vais continuer un petit peu, j'espère, mais j'ai été un petit peu déçu après toute cette mésaventure, donc. Bon, voilà. Et puis quoi d'autre, de quoi je voulais parler, deux jeux auxquels j'ai pas pu jouer dont j'entends beaucoup parler en ce moment, c'est Chivalry 2. Est-ce que vous avez testé Chivalry 2?
Non, mais je pas veux trop le tester. Tout le monde me dit qu'il faut que j'y joue, quoi.
Ça a l'air vraiment rigolo. Tu sais, si j'avais plus de temps, si j'avais pas d'enfant, on se ferait une session où on s'encouragerait tous les deux, parce que ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu, Chivalry, le premier. Celui-là, il vient de sortir, c'est le 2. Donc, c'est un jeu de combat médiéval, donc avec des armes principalement des épées, des masses, ce genre de trucs. Et c'est à la fois sérieux et complètement débile, et ça sait... Il sait de lui-même qu'il est un petit peu débile parce que se taper avec des épées dans un univers de ce type-là en FPS, en fait, c'est du FPS médiéval, ça a forcément un aspect un petit peu ridicule, quoi, dans les combats. Ça peut pas être uniquement bien foutu, mais on peut se découper les bras, on peut balancer ses épées. Ça a l'air, et l'ambiance a l'air super bonne. J'ai vraiment envie de le tester, quoi. Mais, ouais.
Okay. Ouais, je suis tombé sur quelques vidéos qui font un peu sacré graal, effectivement, où tu vois des bras qui tombent, puis un deuxième bras, puis une troisième jambe. Enfin bref, ça a l'air complètement stupide. Le rythme du truc a l'air vraiment frénétique. Quand t'es en plein milieu de la bataille et que t'as je sais pas combien de personnes qui te tombent dessus en même temps, ou toi t'essayes de foncer dessus, ça a l'air assez fou, ouais, dans ce sens-là, et du coup ça a l'air vraiment très intéressant.
Il est sur l'Epic Game Store, il faut que je le prenne. Il vient de sortir, là, il y a 2 semaines. Mmh. Tout le monde en parle, il faut que... Je vais aller le prendre et je vais y jouer un tout petit peu, mais j'irai le prendre. Il y a celui-là, et puis Lego Builders Journey, qui est un jeu très court, mais qui tire parti, qui a un look vraiment incroyable, et puis qui a du ray tracing, mais de folie. On est une sorte de petit personnage l'ego et il faut se construire son environnement pour pouvoir se déplacer avec des pièces de l'ego. Je sais pas si le jeu est très court, hein, il dure à peu près 2 heures et j'ai pas l'impression que le jeu soit au niveau du jeu lui-même incroyable, mais par contre au niveau des graphismes c'est assez fou.
Est-ce qu'il est beau, ouais.
Ouais. Oh, c'est vraiment le ray tracing hyper bien implémenté, quoi. Ça a l'air, c'est même pas que ça a l'air réel, mais bref, allez trouver un trailer Lego Builders Journey. Ça a l'air assez particulier. Et puis, je veux mentionner aussi rapidement Dungeons and Dragons. Ah merde, j'ai déjà oublié le nom. Dark Alliance.
Dark Alliance.
Dark Alliance. Mmh. Alors, je crois que tu as fait une OP commerciale Trinity, donc je ne vais pas t'obliger à en dire quoi que ce soit, mais les reviews sont quand même pas très très bonnes, hein, on peut le dire avec...
Mais je suis étonnée, justement, honnêtement, hein, c'est pas parce que j'ai fait une OP, tu vois, que je suis en mode, je vais forcément être que dans le sens du jeu, mais j'ai vu que les reviews avaient été assez mauvaises, et j'étais... j'avais pas regardé les reviews, on a joué, on a fait notre truc, et franchement, on a bien déliré, on était à 4, et on s'est bien amusé sur le jeu, et justement, c'était un peu l'étonnement, quand les gens m'ont dit, non, les reviews sont assez mauvaises, je suis pas allée les lire, donc... moi, je suis... Faut aussi prendre en compte que moi, je suis complètement étrangère, déjà, à ce genre d'univers, à la base, quoi. Donjons et Dragons, hormis en ayant fait un peu de JDR, je suis très, très étrangère à tout ça, donc j'ai pas... peut-être pas le... comment dire, l'œil affûté, l'expertise, voilà, comme tous ceux qui sont peut-être très fans de ce genre de saga, etc.
C'est... Ouais, bah écoute, moi, de ce que j'en ai lu, le seul point qui semble être une qualité pour les reviewers, c'est cet aspect jeu à plusieurs. Dont ils disent au moins ça rééquilibre un petit peu le jeu et puis on peut peut-être avoir des bons moments à plusieurs, mais dans l'ensemble les critiques c'est que c'est très répétitif, qu'au niveau du gameplay il y a peu d'inventivité, et donc voilà, pourtant ça a l'air dans les trailers et tout ça quand même intéressant, mais oui, les critiques ont l'air assez unanimes. Le truc, c'est qu'il est sur Game Pass. Bah voilà, on y revient. Donc, si vous voulez tester et que vous avez le Game Pass, bah, vous pouvez le faire très facilement. Et peut-être que vous aurez une bonne surprise. Mais oui, les reviews sont vraiment pas bonnes, quoi.
C'est triste parce que moi, là, pour le coup, moi, je suis très, très fan de l'univers. J'avais pu y jouer un petit peu, d'ailleurs, avec un développeur il y a quelques mois. Là, j'ai confié le test à quelqu'un chez nous. Et bon, bah, il est parti pour le défoncer. Donc, voilà, je suis un peu triste. Que j'aime beaucoup les Royaumes Oubliés, et bon, ça sera pas pour cette fois, je crois.
Pas pour cette fois, effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour des démos et des jeux dont on voulait parler. Je vais juste évoquer rapidement l'atelier du jeu vidéo qui est sorti dans l'indifférence générale, en fait. Vous savez, le faiseur de jeux de Nintendo, dont je pense qu'ils attendent de voir si les développeurs ou les développeurs en herbe vont réussir à en sortir des choses intéressantes. Ils l'ont vraiment pas vendu. Les retours semblent être que c'est vraiment, vraiment compliqué et dans la tradition japonaise, très, très verbeux. Les tutoriels sont assez arides. Mais par contre, on commence à voir des choses assez complexes qui sont montrées par les développeurs, des vrais jeux. Il y a des gens qui ont refait Mario Kart, F-Zero, une version 3D de Sonic, le premier du nom, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on aura des choses intéressantes au final. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc... c'est peut-être pas un jeu. Et puis la complexité du truc fait que c'est pas forcément pour tout le monde, quoi. Mais ça, on le savait peut-être déjà. Même si on pouvait se poser la question, vu la facilité d'accès, de l'accessibilité de Mario Maker. Là, ça semble être vraiment un cran au-dessus, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parte dans cette histoire de Blue Box Games ? On explique ça. Je sais que tu dois bientôt partir, Trinity, donc on va te laisser partir bientôt.
Mais avant ça... ça m'intéresse parce qu'on va parler d'un jeu dont celui... On a vu le trailer. Bref, je veux bien qu'on parle de l'histoire.
Ouais, alors écoute, c'est un truc assez fou qui est en train de se passer avec cet emballement autour de Blue Box Game Studios. C'est un studio... Alors, je ne sais même pas par où commencer, en fait. C'est un studio qui est... Alors, il est d'où ?
Néerlandais.
Voilà. Hollandais. Qui a eu une annonce sur le blog PlayStation d'un jeu au titre temporaire de Abandoned, donc abandonné. qui devrait être présentée bientôt, là, dans les jours qui viennent. Il y a même demain une application iOS qui sort, qui est une sorte de trailer application dont on ne sait pas grand-chose. Et la société a été créée en 2015. Et avec tout ça, l'Internet a commencé à enquêter, parce que c'est un petit peu bizarre d'avoir une si petite boîte qui bénéficie d'une présentation sur le PlayStation Blog, et ils ont trouvé tout un faisceau d'indices qui pourrait indiquer que c'est en fait un énorme hoax, comme il y en a eu d'autres, de Hideo Kojima pour générer de l'intérêt pour présenter son prochain jeu. Alors, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on pourrait penser que c'est le cas. Ne serait-ce que le nom du développeur principal qui s'appelle Hassan Karaman, HK, Hideo Kojima. En plus, Karaman, ça veut dire Kojima, ce qui veut dire homme extraordinaire ou un truc comme ça. Pardon, Hideo, je veux dire. C'est mari extraordinaire ou homme extraordinaire. Donc, c'est quand même une énorme coïncidence. Il y a des tweets du studio sur Twitter qui ont soit sauté sur l'occasion pour se faire une communication facile, soit qui sont vraiment issus de Kojima. Parce qu'ils ont fait plein de trucs du genre, dans leur trailer, il y a des P et des T cachés, comme Pity, le fameux trailer de Kojima à l'époque. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Ils ont semblé indiquer que le vrai nom de leur jeu, ça commencerait par S et H comme Silent Hill. Oui, parce que tout ça est basé sur Silent Hill. Ce qu'on a vu du jeu semble assez proche, pourrait correspondre à un reboot de Silent Hill éventuellement. Mais il y a aussi des éléments qui semblent rendre difficile la chose. Le studio donc a été créé en 2015 et il a même lancé un Kickstarter à ce moment-là qui a été vraiment un ratage complet, à tel point qu'on peut se dire que ça aurait été un Kickstarter lancé pour donner une légitimité au studio, mais sans aucune communication. Ils ont levé genre $200, hein, un truc ridicule, sans aucun but de réussir le Kickstarter pour, 6 ans plus tard, le ressortir en donnant l'impression que c'était pas du flan. Au bout du compte, il y a eu tellement de communication là-dessus et de buzz dessus que le studio a dit clairement « Nous ne sommes pas affiliés avec Hideo Kojima ». Le développeur principal, Hassan Karaman, a fait une vidéo pour montrer qu'il existait vraiment, parce que des gens commençaient à dire « Mais il n'existe pas ce type, son profil LinkedIn, il est complètement vide ». En plus de ça, il y a uniquement deux personnes, dont Jeff Keighley, qui est, on le sait, le monsieur « Je suis très pote » de Hideo Kojima. Enfin, et il y a toute une série de choses, enfin, ça serait abracadabrantesque que ça soit effectivement un truc planté par Hideo Kojima à l'époque, en 2015, quand il était encore chez Konami, puis il s'est brouillé avec Konami, et puis maintenant, est-ce qu'ils se sont réconciliés avec Konami pour faire une suite à Silent Hill ? Et Blue Box dit « Non, non, on n'a rien à voir ni avec Silent Hill, ni avec Kojima, on est désolé, sincèrement, on est désolé, mais au final, ça serait vraiment ça ?» Il y a un truc... Je sais. Moi, plus je regarde les informations sur le truc, plus je sais plus quoi penser. Au début, je me disais, mais évidemment que c'est pas Kojima. Maintenant, je sais plus quoi penser. Moi, je pense que c'est pas lui, parce que ça serait trop. Mais vraiment, si ouais. C'est lui au final, je serais pas si surpris que ça.
Ouais, Yannick, t'avais l'air de dire.
Je
pense que c'est surtout ça. Non, désolé. Je pense que c'est surtout ça qui fait que. On laisse la part de doute, parce qu'en fait, on se dit, ça pourrait être... Tu vois, c'est bien le style d'Hideo Kojima de faire des trucs comme ça.
Moi, qui l'a fait par le passé, ce genre de choses. Hein. Créer des faux studios, tout ça.
Exactement, mais là, personnellement, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi j'y crois pas, parce que moi, je me dis que si on veut trouver des coïncidences, on en trouve toujours, en fait.
Tu vois, si on veut là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je
sais pas.
Je sais pas. Karaman, qui veut dire HK Hideo Kojima, rien que ça, je sais pas. Bon, c'est une coïncidence.
Ouais, non, c'est vrai, t'as peut-être raison. Et je sais pas, tu mets le doute, ça y est.
Le trailer qui... enfin bon, je sais pas. Vous savez, toute ma logique, toute ma... comment dire ? Tout mon rationnel, qui est quand même... je suis quelqu'un de très très rationnel, de très carré, de très scientifique, me dit... ça peut pas être ça parce que c'est trop gros, c'est trop une coïncidence. Et puis, quand je vois tous les trucs, le Kickstarter, il n'y avait rien. Personne lance un Kickstarter comme ça, même en 2015, quand c'était la mode. Personne ne peut lancer un Kickstarter comme ça, avec l'idée que ça va marcher. Le trailer qu'ils ont montré pour le truc de la PlayStation en avril, il n'y a rien dedans, c'est des images stylisées. Enfin bon, bref, pourquoi est-ce que Sony mettrait ça en avant ? Gianni, sois la voix de la raison, dis-nous.
Oh là, bah, j'ai pas beaucoup de raisons moi, là-dessus, parce que je suis parfaitement troublé par toutes ces choses que les gens réussissent à déterrer et qui, du coup, vont faire germer en toi une espèce de graine de doute qui n'a aucun sens. Ça a absolument aucun sens. Ouais. Mais quand tu vois cette image là que je viens de voir passer à l'instant avec le PLT qui sont masqués par un arbre, quand effectivement t'apprends que le nom de Karaman en turc ça veut dire héros, d'ailleurs son prénom veut dire beau ou fort, si j'ai bien compris Hassan, ça veut dire ça aussi, ça fait quand même un truc assez intéressant sur lequel tu peux partir. Il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles tu peux partir, le fait que aussi il ait discuté avec Jeff Keighley visiblement en MP sur Twitter, pourquoi Keighley, qui est sûrement pas un mec accessible, se permettrait de partager ses MP avec un studio indépendant le premier studio indépendant qui viendrait parler avec lui. Il y a plein de choses comme ça. Tu te dis, ah ouais, ça ressemble quand même à du Kojima. Mais ce qui est le plus fou, je trouve, en fait, c'est que partons du principe que non, c'est pas Kojima qui le fait. De base. Bon, c'est ce que je pense. Hein. C'est que, en fait, on est parti dans un délire où les gens ont réussi à se monter la tête et à faire qu'un type d'un studio indé soit obligé de faire une vidéo pour dire « Oui, regardez, j'existe. Non, j'ai rien à voir avec Hideo Kojima. » C'est-à-dire que c'est un peu comme si...
Ils ont joué dessus aussi, hein, ils ont aiguillé le truc, hein, il faut avouer.
Ouais, bien sûr. Évidemment, ils ont leur teasing était un petit peu, était un petit peu tendancieux aussi. Mais on arrive quand même...
Sur Twitter, ils ont dit « Notre jeu commence par SCH comme Silent Hill, tout ça. » Ils ont joué avec le truc, quoi, clairement.
Ah bah bien sûr, je pense qu'ils ont joué. Bah, par contre, le fait est qu'il y a des gens qui, du coup, ils ont pris le jeu un peu trop à cœur et ils en ont fait une vérité. C'est un peu comme si les platistes réussissaient à gagner demain, tu vois.
Mais c'est exactement disant... ça. Tu sais, je commence à comprendre comment les gens rentrent dans ce genre de théorie du complot, parce que vraiment, logiquement, ça ne peut pas être Kojima. Enfin, je veux dire, ça serait trop gros, ça serait une trop grosse...
Bah surtout, est-ce qu'il a parlé, Kojima ?
Non, il reste super silencieux, je me souviens pas qu'il ait parlé. Il dit rien, mais ça lui fait de la pub, ça flatte son ego en plus, c'est une diva, donc je pense que c'est... Tu vois, c'est... Enfin, bref, je sais pas, je pense, je reste comme toi, Gianni, si je dois mettre ma main en jeu, je dirais non, c'est pas Kojima, c'est pas ça. Mais c'est pas une coïncidence, on voit des patterns partout, parce qu'on est des machines à repérer des patterns, et voilà quoi. Mais bon.
Non, mais en plus, ils ont même invoqué carrément un studio qui outsource le jeu qu'ils sont en train de préparer, pour que le mec dise non mais rassurez-vous, on existe aussi, on est une équipe... Enfin, pour moi, c'est plus fou. Ça me rappelle aussi l'histoire du chanteur italien à l'Eurovision. Le mec, il se pente avec les points comme ça. Tout le monde croit qu'il sniffe de la coke. Ça s'est monté en épingle très rapidement. Là, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est à peu près la même chose.
Et je pense
il y a une personne dit ah oui, mais non, mais c'est comme ça. Et il y en a l'autre qui s'engouffre et qui disent ah ouais, c'est peut-être comme ça. Et puis hop, comme ça, ils sont 10, ils sont 20, ils sont 300, ils sont 2000. Et ça augmente comme ça, tu sais pas pourquoi.
Bientôt, dans le rendez-vous jeu, on commence à donner du crédit à cette théorie ridicule. Bon, bah écoutez, voilà, au moins vous saurez.
Imagine que c'est Kojima, on aura bien l'air fin d'entendre.
Bah oui, exactement. Mais on aura la réponse bientôt. Hein. L'app bizarre doit sortir, je crois, demain. Donc on saura. On va te laisser filer, Trinity. Merci beaucoup.
Oui.
D'avoir été avec nous.
Plutôt, merci à vous.
Merci à toi. Au plaisir.
Un vrai plaisir de discuter avec vous et puis à très vite.
À très très vite, Mythix Trinity sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Merci.
Et nous, on va finir petites rumeurs et news qui nous restent. D'abord pour signaler que le Xbox Design Lab est revenu. Vous savez, c'est ce store en fait qui permet de customiser les manettes Xbox avec tout plein de couleurs différentes. Et là, ça, c'est possible avec les nouvelles manettes Xbox Series. C'est plutôt sympathique. Moi, j'en ai pas vraiment besoin, mais je me suis dit peut-être qu'il me faudrait une manette pour le PC et une pour la console, et je pourrais la customiser avec. avec un beau rose qui correspondrait aux couleurs de l'émission, et puis peut-être graver un petit I love Kojima sur la manette, un truc du genre. Parce que tout le monde sait que j'adore les divas et que Kojima, c'est mon idole. Mais bon, voilà, si vous voulez une manette customisée, c'est possible sur le Xbox Design Lab. Il y a vraiment des belles possibilités et des possibilités immondes, hein, je vous le confirme. Est-ce que tu as vu, Gianni, le trailer oui. de Farming Simulator 2022 ?
J'ai le droit de répondre que non ?
Si tu réponds non... Je vais te recommander d'aller le regarder parce que
pourquoi
bon sang, Farming Simulator, alors on sait que c'est un phénomène, hein, c'est un truc hyper hyper populaire qui est vendu à des millions d'exemplaires chaque année. Je me demande si c'est pas Koch Media qui édite Farming Simulator.
C'était Focus aux dernières nouvelles, mais je ne sais pas si ça a changé de main.
Bon, ça fait... Non, ça doit être Focus toujours, ils ne laisseront jamais. Celui qui l'a ne laissera jamais partir. Tu sais, je pense à Koch parce que c'est des Allemands, mais celui qui l'a entre les mains ne le laissera jamais partir. Mais le trailer, c'est un truc qui est énergisant, émouvant, convaincant. Enfin, vraiment, il y a un truc, c'est l'histoire d'une fille et de son père qui sont agriculteurs, qui est raconté en petites scènes entrecoupées en 2 minutes et demie. C'est hyper, hyper convaincant et c'est pour Farming Simulator, quoi. Donc, allez le voir, c'est vraiment rigolo. Je vous le recommande. Et je voulais le mentionner parce qu'il m'a surpris. Et je voulais aussi mentionner un event League of Legends. Alors vous savez que je joue à aucun jeu Riot, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est l'event Ruined King, le roi le roi ruiné, mais genre ruiné pas en sous, hein, le roi, enfin, bon, bref, pourri, le roi pourri, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un event qui a lieu dans tous les jeux de l'univers League of Legends. Donc, que ce soit Legend of Runeterra, League of Legends, Teamfight Tactics, etc. Et il y aura même des éléments dans Valorant. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en ayant une galaxie de jeux différents dans le même univers, ils peuvent du coup utiliser un event pour faire un truc cross-jeux vidéo, un petit peu comme on peut l'avoir... je sais pas, ça me fait penser évidemment à Marvel et aux events Marvel où les héros se retrouvent dans des films à partir de différents films. Bah là, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un event qui se retrouve dans différents jeux en même temps. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme moyen de lancer de générer de l'intérêt pour ces différents jeux. Et c'est une position assez unique dans laquelle est Riot. Donc, je voulais le mentionner.
Blizzard fait de temps en temps ce genre de choses, non ? Alors, dans la plupart de ces jeux, en multipliant des événements. Alors après, c'est du cosmétique en général, mais...
Et puis surtout, c'est jeu par jeu. Tu vois, c'est rarement... Ouais. Parfois, pour la sortie d'un jeu, ils vont sortir des trucs cosmétiques dans d'autres jeux. Ou alors, pour la BlizzCon, tu vas avoir des trucs bonus dans chaque jeu. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est dans un jeu que tu suis et que tu aimes beaucoup, tu vas avoir un event qui va te plaire. Et un jeu qui est en parallèle, qui n'est pas le même genre de jeu, mais qui est dans le même univers, il va avoir aussi un event. Donc, ça va peut-être t'encourager à aller y jeter un coup d'œil aussi. Je sais pas, il y a une sorte d'énergie,
de synergie, ouais. Chose,
de synergie, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui est intéressante et qu'on n'a jamais vraiment vu de cette manière. Quoi d'autre ? Maintenant, on passe au rayon des rumeurs. Il semblerait que pour le EA Play du 22 juillet, EA soit possiblement prêt à ressusciter la franchise Dead Space. Ça fait presque 10 ans qu'on n'en a pas entendu parler. C'était 2013 avec Dead Space 3 et il est possible qu'on voit du Dead Space à la conférence EA. On a aussi des spéculations sur la sortie de Ghost of Tsushima sur PC. Il y a eu en fait une mention uniquement sur PlayStation qui a été supprimée d'un box art, donc comme il y a des jeux exclusifs PlayStation qui sont arrivés sur PC, les fans se sont mis à spéculer, et ça ne serait pas si surprenant que ça, hein. Ça serait même logique que quelques années après la sortie sur PlayStation, il arrive sur PC aussi, comme ça a été le cas d'autres jeux, pour faire un petit peu plus de sous à Sony, qui en a bien besoin. Donc si vous êtes fan de... Si vous vouliez essayer Ghost of Tsushima et que vous n'avez pas de console PlayStation, eh ben... Vous pourrez peut-être le faire, à confirmer. Il y a aussi, dans les données de l'Epic Game Store, des indices qui semblent indiquer que Alan Wake Remaster et Final Fantasy VII Remake pourraient arriver bientôt dans l'Epic Game Store, donc sur PC. Ça aussi, ça va faire quelques heureux. Alan Wake, c'est vraiment un jeu intrigant dont tout le monde parle avec émotion et amour, enfin tous ceux qui l'ont fait. Et il y avait beaucoup de... Enfin, il y a un lien avec Control et des rumeurs sur un Alan Wake 2 qui pourrait arriver bientôt. Et c'est un truc que si j'avais du temps, j'irais bien y rejeter un coup d'œil parce que vraiment, il a une tendresse chez les joueurs qu'on ne retrouve pas souvent quoi, sur ce genre de jeu.
Tu ne l'avais pas fait à l'époque, Mike ?
Non, je ne l'avais pas du tout fait, non.
Ah là là, mais c'est indispensable.
Ah oui, vraiment,
si tu as un quelconque attachement aux univers de Stephen King ou de David Lynch, que tu as envie de quelque chose de vraiment bizarre, quoi. Parce que c'est vraiment le principe du jeu. Et si tu as joué à Plague Tale, qui lui te fait flipper avec des rats, là c'est avec de la lumière, ou la non-lumière avec l'ombre. Ouais. Pour moi, Plague Tale, c'est Alan Wake, mais comme je te dis, avec des rats. Si tu as vraiment une tendresse pour les choses que je viens de mentionner, plus Max Payne, parce qu'il y a quand même un petit peu de what the fuck aussi dans Alan Wake, vraiment c'est un jeu mais extraordinaire à tous les points de vue.
Écoute, tu me donnes un petit peu envie, donc peut-être que...
Et il n'est pas cher, hein, donc je pense que là, pour le trouver, même en version pas remastered, il passe encore en plus.
J'attendrai le remaster quand même, hein. C'est un jeu qui a son petit âge, donc peut-être que j'attendrai
Mais ouais, il est vraiment extraordinaire. Il est très... il est très... je vais pas dire simpliste, hein, mais c'est très basique au niveau du gameplay, on va dire minimaliste, voilà. Mmh. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup.
On demande dans la chatroom s'il a bien vieilli. Est-ce que tu l'as revisité récemment ou...
Alors, je l'avais relancé il y a 2 ans. Mmh. Les cinématiques, non. Mmh. Mais le jeu en lui-même, ça reste par ses effets de lumière et ses bullet time, ça reste plus que correct encore aujourd'hui. Ah bah, c'est du Remedy Entertainment. C'est...
Ah d'accord, s'ils pas de bullet time. Tu me l'as vendu, c'est bien.
Il n'y a que Control qui n'a pas vraiment de bullet time. Donc,
voilà. Ok, mais il y a du combat à l'arme à feu ou c'est... J'avais
plus
l'impression que c'était un petit peu quand même. D'accord. Bon, écoute,
plus ou moins.
Le remaster vient de gagner 2 points d'intérêt pour moi. Et puis, Castlevania Advance Collection semble pointer le bout de son nez. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une collection de jeux qui est rumorifiée depuis quelques jours, quelques semaines, qui réunirait les jeux Game Boy Advance de la Castlevania, c'est-à-dire Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow, que j'évoque parce que Aria of Sorrow, en particulier, moi, ça m'a donné des moments de bonheur sur la Game Boy Advance à l'époque. C'était sorti... Oh, c'était 2003, j'avais l'impression que c'était un peu plus tôt que ça. Et bon, Castlevania, c'est toujours particulier, hein, dans mon cœur. Et donc, je ne sais pas si quand même j'irai sortir les sous pour une collection Advance, mais je serais tenté, on va dire.
Bah, c'est surtout qu'en fait, Konami, ils sont habitués à pas faire beaucoup en bonus. À part si l'Anniversary Collection, il y avait quand même pas mal de choses. C'est vrai, mais après, il va falloir réussir à bien les adapter, à en faire quelque chose de sympa, parce que il y a quand même des particularités dans ces jeux. Par exemple, les voyages dans les menus, etc. C'est des choses qu'il faut essayer d'adapter un petit peu au gameplay, aux prises en main actuelles, mais ça reste. Dans les trois cas, je suis peut-être moins emballé avec Harmony of Dissonance, mais dans les trois cas, ça reste quand même des super jeux.
Ouais. Et par contre, comme je pense que espérer une modernisation, c'est un petit peu vain. Hein. Je crains que.
Oui, non, pas avec Konami, non.
Ouais,
avec malheureusement, Hélas. c'est pas dans leurs habitudes, malheureusement. Ouais. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les dernières compiles Castlevania, donc Castlevania Anniversary Collection et le Requiem, oh, je crois que c'est Requiem of Blood qui réunit Symphony of the Night et Rondo of Blood. C'est le strict minimum. Voilà. Ouais.
Ce qu'on pourrait espérer, ça serait un jeu plus moderne, dont il pourrait confier la licence à un développeur qui sait comment, qui pourrait essayer de renouveler la formule en respectant l'héritage. Ah. Mais on n'y croit pas. Eh, peut-être que c'est ça, Abandoned. Peut-être que c'est ça, finalement.
Tu veux dire un Castlevania à la première personne par Kojima?
Non, non, c'est mauvaise idée.
Autant Kojima aurait dû reprendre Castlevania, autant là, j'y crois pas du tout.
Oui, on est d'accord. Et puis, je voulais parler d'IA encore un tout petit peu pour dire que plein de gens se sont mis à rejouer à Battlefield 4, ce qui est quand même marrant avec l'annonce de 2042. IA est en train de réactiver des serveurs Battlefield 4, donc il y a quand même un intérêt pour cette licence. FIFA Ultimate Team est maintenant dans les, vous savez, c'est la version lootbox de FIFA. Et ben, les lootbox montrent ce que vous avez dans la prochaine lootbox que vous avez. Donc on se dit, ah ouais, cool, super, ça y est, on n'achète pas à l'aveugle. Sauf qu'évidemment, ça montre la prochaine lootbox, mais ça ne change pas la lootbox pendant 24 heures. Genre, toutes les 24 heures, la lootbox change. Donc, en pratique, c'est bien, hein, c'est ce que réclamaient beaucoup de gens, mais en pratique, ça veut dire qu'on achète celle-là pour voir ce qu'il y aura dans la prochaine, finalement. C'est un petit peu le principe parce que, de toute façon, ça déplace, en fait, l'achat à l'aveugle à la suivante. Donc, je crois que... Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire avec le principe des lootbox. Pour aller plus loin, il faudrait carrément supprimer les lootbox. Et bon, je crois que ça, c'est pas prêt d'arriver. Mais c'était intéressant à noter tout de même. Ils ont acheté Playdemic, ça c'est la grosse news de ces derniers jours. Si vous ne connaissez pas Playdemic, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est un énorme développeur de jeux mobiles qui ont fait Golf Clash et ils les ont achetés à AT&T, qui était, bon, c'était la partie jeux vidéo d'AT&T avec Warner Brothers, mais ils les ont achetés pour 1,4 milliard de dollars. Pour un studio mobile qui a fait un jeu à succès, 1,4 milliard de dollars. C'est une orientation mobile pour EA, qui en plus pourra capitaliser avec PGA Tour Golf sur un jeu mobile. Mais rien que, je ne sais plus si c'était les revenus à date de Golf Clash, qui est sorti il y a un moment déjà, qui était autour de 1 milliard. Donc c'est vraiment un énorme truc. Mais 1,4 milliard de dollars pour un studio de jeu mobile qui a fait un jeu. Voilà, si vous voulez une idée de combien ça fait. Comme nous le rappelle Kassim, nous le rappelait sur Twitter, c'est un cinquième du prix que Microsoft a payé pour acheter Bethesda. Voilà. Et ouais, c'est les jeux mobiles.
Ça fait rêver.
Ça fait rêver, on va dire ça comme ça.
Du côté développeur, hein, je parle. Hein.
Oui. Oh. Ouais, et puis peut-être qu'ils feront des jeux mobiles intéressants, hein, y a pas de raison. On peut garder l'espoir. Et puis bon, au rayon des controverses, on va passer très rapidement sur plusieurs petites news parce qu'on arrive à la fin de l'émission. La Chine a tapé très très fort sur les crypto-monnaies et sur le minage de Bitcoin. Et du coup, il y a plein de fermes de minage qui ont fermé. Et donc, les cartes graphiques qui leur servaient à miner ont commencé à chuter en prix. Donc, si vous voulez acheter une carte graphique, une 2000 ou une 3000 plutôt, bah, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Il semblerait qu'on ait au minimum une petite fenêtre là, de quelques semaines, quelques mois, où elles pourront être acquises à un moindre prix, on l'espère. On va voir si ça va se reporter sur les ventes en Europe et aux États-Unis. Le dernier patch de Cyberpunk 2077 a permis le retour sur le PlayStation Store. Mais c'est intéressant parce que Sony continue à dire « N'y jouez pas sur PlayStation 4, à la limite sur PlayStation 4 Pro, ok sur PlayStation 5, mais pas sur PlayStation 4. » Ce qui est quand même, bon, il est de retour dans le store, c'est déjà ça. Marvel Avengers a eu un bug. Vraiment, c'est... Alors moi, je l'ai bien aimé, le jeu. Hein. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il a des mécaniques de gameplay vraiment convaincantes. Mais le pauvre, c'est tapé sur un cheval mort, comme on dit en anglais. Il y a eu un bug qui affichait l'adresse IP des joueurs sur votre écran, enfin, de votre adresse IP. Donc, il vaut mieux ne pas le streamer. Mais enfin, c'est vraiment... Mais comment vous faites pour sortir une mise à jour avec un bug comme ça ? Je suis perplexe. Facebook, vous savez qu'on avait des craintes sur l'acquisition de Oculus. Eh ben, ils sont en train de tester la possibilité de mettre des publicités dans les jeux en réalité virtuelle. Et Resolution Games, qui fait Blaston, un jeu VR, a dit qu'ils allaient participer au test. Et suite au petit problème qu'ils ont eu avec les joueurs, visiblement le jeu s'est beaucoup fait review bomber, bah, ils ont dit que finalement on ne va pas participer au test. Bon, ça arrivera dans d'autres jeux certainement, hein. Facebook a acquis de nombreux studios, donc ça arrivera à un moment. Et puis bon, si on veut être positif dans l'histoire, peut-être que ça permettra d'avoir des jeux gratuits, plus facilement accessibles du coup, soutenus par la pub, même si ça n'a pas forcément eu que des avantages dans les jeux mobiles, mais bon, voilà, on va dire ça comme ça. Et enfin, pour terminer le dernier élément bien rigolo de cette semaine, c'est que vous savez que GameStop a vu son action faire des yo-yo à cause d'une opération de Reddit qui voulait... Bon, bref, je vais vous passer les détails, mais se sont mis à acheter de l'action GameStop alors que la société est au fond du trou et a très peu de perspectives de rétablissement, étant donné que quand même le business du jeu vidéo se détourne du physique et des magasins. Eh bien, ils ont vendu des actions... au moment de cette opération mimesque, internetesque de gonflage de l'action GameStop, et ben ils en ont vendu et ils ont fait 1,1 milliard de dollars à ce moment. Là, il y a quelques jours, quelques temps. Et ça, c'est en plus des, je ne sais plus, 400 millions ou 500 millions qu'ils ont fait il y a quelques mois. Du coup, ils se retrouvent avec un trésor de guerre de plus d'1,5 milliard de dollars grâce à cette opération de Reddit, ce qui est quand même complètement fou. Ils ont émis plus d'actions, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et ils ont dit, bon, on va investir cet argent pour des investissements d'avenir, de machin, de développement, ce qui est très bien, hein, tant mieux pour GameStop. Mais enfin, je trouve ça hallucinant que ça soit passé de la sorte et qu'ils aient réussi au final à tirer parti de cette histoire un petit peu ridicule. Tant mieux pour eux, espérons qu'ils réussissent une reconversion ou un renforcement de leur activité. Hein. On n'a pas forcément envie spécifiquement de voir GameStop disparaître. Et là, peut-être que ça pourrait leur donner la place, le buffer pour faire quelque chose, pour changer la tendance quoi, pour eux. C'est fou.
Oui, bah, de toute façon, beaucoup de choses dont on parle depuis tout à l'heure sont folles, hein, quand même.
Ouais. D'accord.
faut quand même en convenir.
Je ne sais pas s'il y a un de ces sujets qui te parle plus particulièrement sur les derniers qu'on a évoqués. N'hésite pas à le dire avant qu'on ne clôture l'émission.
Écoute, moi, c'est toujours le cyberpunk. C'est quand même quelque chose... J'espère qu'un jour, ça va s'arrêter pour eux, qu'on arrêtera d'en parler à cause de tous les problèmes qu'il a eu sur console d'ancienne génération. Moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance de le tester sur PC dans des conditions quasiment idéales. Qui ont eu des problèmes au tout début, et puis il m'a fallu deux mises à jour, que ce soit le jeu et ma carte graphique, pour qu'ils deviennent, qu'ils tournent parfaitement. J'ai peut-être eu deux bugs, mais quand je vois l'état dans lequel il est sorti sur PS4, que version que j'ai dû essayer après, je me suis dit là, c'est pas possible. Ok, c'est un studio, je sais depuis longtemps. Depuis le premier The Witcher, on sait que c'est un studio PC, c'est des Project Red. Mais là c'était vraiment ça fallait pas quoi. C'était déjà à l'époque de The Witcher 3, j'avais peur. Vraiment, j'avais très peur, je me disais que ils auraient peut-être du mal, même si The Witcher 2 était bien passé sur 360. Je dois avouer que pour The Witcher 3, j'avais peur, ils s'en étaient très bien sortis malgré tout. Enfin, en tout cas, ça avait pas été monté en épingle comme là. Mais là, Cyberpunk, ce serait bien qu'on commence à en parler pour ses qualités, qui sont quand même assez nombreuses, je trouve, pour l'avoir fait pendant plus de 80-90 heures. Je trouve qu'il mérite quand même un moment qu'on en parle pour autre chose. Et oui, là, du coup, le fait que Sony dise oui, il est sur le store, mais par contre, n'y jouez pas sur PS4, bon, de toute façon, ils ont parfaitement raison. Même avec les patchs, je crois que malheureusement, il est impossible à sauver.
Oui. Bah, en plus, les dernières mises à jour ont retiré une partie de la densité de population, ce qui fait que les rues sont quasiment vides. Enfin, il y a des et sur toutes les versions en plus. Donc c'est vraiment. Mais le fait que Sony Disney n'y jouait pas, c'est bon. Écoute, comme tu le dis, espérons qu'un jour on en parlera pour ses qualités qui ont été malheureusement un petit peu éclipsées, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Gianni pour ta participation à l'émission. C'était extrêmement sympathique de t'avoir. Est-ce qu'on peut savoir où on peut te retrouver sur Internet quand tu
toujours sur gameblog.fr où je vais retourner dans les 5 minutes qui viennent là pour travailler parce qu'on n'a pas le temps de se reposer malheureusement.
Très bien. Voilà. Gameblog.fr et puis on mettra aussi le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Le compte de plume avec un V comme un U, sauf que c'est un V.
Oui, et si vous aimez Castlevania, il y a un bouquin pas trop mal qui est sorti chez Sœur d'édition il y a 2 ans. Il était chez Pixel 9 avant. N'hésitez pas, hein, on sait jamais. Vous pourriez trouver un truc qui vous plaît.
Dis-nous le titre du coup, vas-y, fais la pub jusqu'au bout.
Attends, parce que je me rappelle même plus du nom de mon bouquin, merde. Ah oui, c'est le manuscrit maudit, voilà. C'est Castlevania, le manuscrit maudit. C'était sur. Enfin, je l'ai fait en 2013, hein, donc ça date, mais c'est vraiment sur toute la saga de manière générale.
Super.
Donc c'était avant que Lord of Shadow 2 arrive.
Très bien. Bah, donc chez Third, qu'on connaît bien d'ailleurs pour leurs nombreuses publications. Super, merci beaucoup Gianni. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com, c'est-à-dire que vous y allez et vous pouvez trouver les liens vers votre application de podcast pour le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu bien sûr, mais aussi d'autres émissions comme Super Laser Punch où on parle des séries Marvel. On va faire le prochain débrief de l'épisode 3 de Loki demain avec notre ami Johan. Et vous trouverez donc tout ça sur notepatrick.com. Vous trouverez aussi le lien vers le Discord où on s'amuse beaucoup à discuter de tout plein de choses, y compris de plein de jeux vidéo, vers le Twitch où on stream cette émission tous les jeudis à midi. C'est twitch.tv/notepatrick, hein, c'est facile à trouver. Et puis bien sûr, le lien vers le Patreon.com/rdvjeux qui est aussi directement dans les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, sachez que c'est le moyen, c'est le financement de cette émission. Donc si vous appréciez le travail fourni, n'hésitez pas à y aller et à regarder les petits bonus que ça offre, en plus de la fierté et du bonheur de me permettre de continuer à faire ce métier. Un grand merci à vous tous et on se retrouve alors tout de suite pour les Patriotes, justement, pour ceux qui contribuent à l'émission, on va parler un petit peu peut-être plus de démos. Je voudrais parler très rapidement aussi peut-être de la question de tout et du Dark Souls. On va en parler juste 2 secondes parce qu'on parle tout le temps des Dark Souls, mais peut-être qu'on parlera de ça. Et si vous n'êtes pas Patriotes, on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Merci à vous tous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.